Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sur ce podcast, je te propose un truc. Tant que je suis dans tes oreilles, tu fais quelque chose de bien pour toi. Tu peux ranger ta chambre ou ton appart, et si t'es pas chez toi, tu peux te redresser. Ça va te faire du bien. Vas-y, redresse-toi. T'inquiète, c'est pas bizarre, personne ne sait que je te parle. Je m'appelle Elio, c'est moi ton hôte, et je te souhaite un excellent épisode.
Yo les gars, content de vous retrouver, j'espère que tout le monde va hyper bien, que vous avez commencé votre année 2023 comme des énormes boss, si possible aussi bien que les 60 membres qui ont composé la section bêta avec lesquels on a commencé notre année 2023 en se levant à 5h du matin, en faisant notre lit, en allant prendre une douche froide, en tapant des pompes. On a inauguré du coup la version bêta du Reboot Camp. 4 semaines, le but c'est de placer un mec sur une trajectoire ascendante, redéfinition claire de ta vision, des objectifs que tu as envie d'atteindre, de surtout comprendre pourquoi est-ce que c'est important de devenir un boss. Je parle de plein de choses, je parle de meufs, je parle de finances, je parle de sport, je parle d'apparence physique. Et je me suis dit je vais regrouper tous ces domaines, créer un programme, créer des groupes et on va avancer en groupe histoire de tous se tirer de l'avant. Et donc aujourd'hui terminer le truc, c'est possible que je fasse un petit peu des liens entre cette quatrième règle et le Reboot Camp, étant donné que la règle du jour c'est compare-toi à qui tu étais hier et non pas à qui quelqu'un d'autre est aujourd'hui, qui est un concept central, étant donné qu'on a tous tendance en fait à se comparer aux gens autour de nous et que c'est d'une part complètement stupide et on va le voir pourquoi, et d'autre part c'est quelque chose qui te baise littéralement ta santé mentale, étant donné que quand tu vas te comparer à quelqu'un d'autre, ce que tu vas faire c'est que tu vas prendre une des nombreuses dimensions qui composent ta vie, c'est-à-dire que ta vie disons elle peut être composée de je sais pas 8-10 dimensions, famille, finance, femme, amitié, travail, sport et ainsi de suite, et quand tu te compares à quelqu'un, t'allumes Instagram, tu vois un mec qui a un meilleur physique que toi, tu compare donc sur une seule dimension, l'apparence physique, et tu te dis putain le mec il est meilleur que moi et du coup tu te sens comme une merde et t'as l'impression d'avoir raté ta vie. En 2023, alors le livre a été écrit sauf erreur en 2018, il me semble que l'édition que j'ai c'est une édition 2018, même en 2018 et encore plus en 2023, les hiérarchies humaines sont intensément verticales. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà hiérarchie humaine, c'est un concept sur lequel on avait pu se pencher au cours de la toute première règle dans laquelle je te parlais du système sérotoninergique du coup qui est il n'y a pas une seule hiérarchie humaine, il y a plusieurs hiérarchies. Tu vois, dans ta famille, il y a certains membres qui vont avoir une position privilégiée, qui vont avoir plus d'avantages que d'autres. Généralement, si ça se passe bien, c'est les parents. Au travail, une autre hiérarchie. Ton boss, il a un salaire plus élevé que toi, il a des privilèges vis-à-vis de toi. Dans ton club de sport, tu as le coach qui a des privilèges et tu as certains joueurs dans l'équipe qui vont avoir des privilèges. Quand ils vont parler, on va plus facilement les écouter, on va leur accorder plus de crédit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant très longtemps, on vivait dans des petites communautés. C'est-à-dire que si tu étais un très bon joueur de guitare, un très bon cuisinier, c'était jouable de devenir le meilleur cuisinier ou le meilleur joueur de guitare de ton village et même peut-être de ta ville. Et donc si tu es le meilleur joueur de guitare que tous les mecs connaissent dans la ville, eh ben tu te sens bien. T'es au top de la hiérarchie des joueurs de guitare, tes émotions via le système sérotoninergique sont bien régulières, tu te sens tout simplement mieux. L'inconvénient à nouveau de gravir une hiérarchie humaine, c'est que du coup, beaucoup de responsabilités. Si t'es le meilleur joueur de guitare et que t'as envie de rester le meilleur joueur de guitare, tu te lèves le matin, tu dois te buter, jouer de la guitare un peu constamment histoire d'être certain d'être bon. Donc pendant longtemps, dans notre histoire, c'était jouable d'être au top d'une certaine hiérarchie. Le problème, alors il y a une solution derrière, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, si t'es le meilleur joueur de guitare parmi 1 million de personnes et que t'habites à New York, eh ben vous êtes 12, parce qu'à New York, il y a 12 millions d'habitants. Donc vous êtes 12 joueurs de guitare super bons. Et parmi ces 12 joueurs de guitare, il y a probablement un joueur de guitare qui est meilleur que toi. C'est-à-dire que t'as beau être un excellent joueur de guitare, si tu te compares aux autres joueurs de guitare aujourd'hui, rien qu'avec New York, et encore je te parle pas d'Instagram, rien qu'à New York, bah t'as l'impression de « vas-y, je suis pas le meilleur, il y a ce mec-là qui est meilleur que moi », tu te compares à lui, tu te sens mal, t'as l'impression d'avoir raté ta vie parce que le mec joue mieux de la guitare que toi. Et même si t'es le meilleur joueur de guitare de New York, bah tu vas toujours trouver un chinois de 10 ans et demi en fait qui te met complètement à l'amende, tu vas allumer Instagram et tu vas voir que le mec il tape un putain de solo et tu te dis putain bah voilà, ok c'est bon, c'est fini pour moi. Donc se comparer aux autres dans un monde aussi connecté et compétitif que le nôtre, c'est une solution perdant. Ok, tu peux pas le faire, déjà on l'a vu, ça a pas de sens, parce que quand tu te compares à quelqu'un, tu te compares seulement sur une dimension, sur la dimension du joueur de guitare, donc tu te dis vas-y ce mec, j'ai mieux la guitare que moi, mais t'en sais rien en fait, peut-être que sa meuf le trompe, peut-être qu'il est dans une condition physique désastreuse, alors que toi mec tu sais faire un muscle-up, évidemment si tu regardes cette vidéo tu sais faire des muscle-up, donc d'une part ça n'a pas de sens, et d'autre part ça te détruit psychologiquement. Et donc à qui est-ce que tu pourrais te comparer de façon juste, de façon honnête, avec qui est-ce que ce serait intellectuellement honnête de te comparer? La réponse c'est avec toi-même. hier. T'es la seule personne qui s'est développée de la même manière que toi, si je peux le dire comme ça, sur les différents domaines qui composent ta vie. Et donc, à partir du moment où tu te compares à qui t'étais hier, ton goal, qu'est-ce que ça va être ? Dans quel domaine est-ce que t'as envie de devenir meilleur ? C'est une question très intéressante. Et dans le chapitre, du coup, Peterson nous parle de textes qui sont, de textes sacrés qui sont à la base de la religion hindouiste. Dans ces textes, ils décrivent le monde, ils parlent du monde comme étant une apparence, une illusion. Ils appellent ça Maya. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est que le monde tel que tu le perçois, c'est pas le vrai monde. Ce que tu arrives à voir autour de toi, c'est pas la réalité. Tes désirs t'aveuglent et t'empêchent de voir le monde tel qu'il est. Pour comprendre un petit peu ce que ça veut dire, pour comprendre un peu ce concept de limite de la perception humaine, il y a une expérience en psychologie super connue qui s'appelle l'expérience du gorille invisible. C'est très simple, on montre une vidéo au sujet de l'expérience. Dans cette vidéo, il y a deux équipes de trois joueurs qui vont se faire une passe avec une balle et on demande au sujet de l'expérience compter le nombre de passes que l'équipe avec les t-shirts blancs vont se faire. Donc les mecs regardent la vidéo fait deux minutes, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Je vous mets le lien dans la description si vous avez envie de faire le test, mais maintenant que je vais vous raconter l'expérience, ben vous allez à comprendre, vous allez regarder le truc et je vais vous expliquer ce que c'est la conclusion. Mais vu que je vous donne la conclusion, en fait, vous n'allez pas pouvoir faire l'expérience. Mais grosso modo, tu comptes le nombre de passes que l'équipe avec les t-shirts blancs se fait, et à la fin de la vidéo, l'examinateur demande au sujet, leur dit combien de passes vous avez compté. Et les mecs ils disent 12 passes, 11 passes, 12, ok, 12 passes, très bien, 12 passes, t'as réussi l'expérience. Donc les mecs ils sont tout contents, ils se font yes, j'ai passé le test. L'examinateur il leur demande ensuite, est-ce que vous avez remarqué un truc de bizarre ? Et là les mecs ils font non, rien de spécial. L'examinateur leur fait, est-ce que vous avez vu le gorille ? Les mecs font, mais fous de ma gueule, quel gorille ? En réalité, 58% des sujets de l'expérience ne remarquent pas qu'au milieu de la vidéo, t'as un mec déguisé en gorille, mais genre même pas caché, tu vois, obvious. Il se met au milieu de tous les mecs qui sont en train de faire une passe et il commence à frapper sa poitrine un peu, de la manière un peu stéréotypale, on dit. Tu sais, un peu comme les gorilles, tu vois, ils font. Il se tape la poitrine et il sort de l'écran. Les gens ne perçoivent pas le gorille. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce gorille ne constitue ni un outil pour les aider à accomplir leur objectif, ni un obstacle qui les empêche à accomplir leur objectif. Leur objectif étant de compter les passes qui sont réalisées par les joueurs. Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Il faut comprendre que tes yeux, c'est des outils. Le but de tes yeux, c'est de te filer un feedback du monde physique pour te permettre d'atteindre l'objectif que tu as envie d'atteindre. Si ton goal, c'est de compter le nombre de passes que va se faire l'équipe avec les t-shirts blancs, tes yeux, ils vont se focaliser uniquement sur ce qui va leur permettre d'atteindre cet objectif. Comme le gorille qui arrive au milieu de l'écran, c'est ni un obstacle, ni un outil qui va pouvoir te permettre en fait, de compter le nombre de passes qui va être fait par les différents joueurs. Ben, en fait, tu vois même pas le gorille. Et ça se passe constamment, tout le temps, autour de toi. Là maintenant, si je te dis, est-ce que tu arrives à me donner la couleur du mur qui se trouve derrière toi ? Il y a des chances, alors bon, si tu es chez toi, peut-être que tu es capable de me donner la couleur du mur, mais il y a des chances pour que si tu n'es pas dans une pièce, familière, tu vas pas pouvoir me dire quelle couleur est-elle le mur. Si je te dis, quelle est la couleur, est-ce qu'il y a des motifs spéciaux qui sont, quelle est la forme de la poignée de ta salle de bain, poignée de porte de ta salle de bain ? Tu vas pas pouvoir le dire. Parce que c'est une information qui est là, mais tu es aveugle à cette information tout simplement parce que tu as des objectifs et tes objectifs, tes désirs t'empêchent de voir cette information-là. Et donc c'est ça que les textes sacrés à la base de la religion hindouiste, c'est quand même 1,2 milliard de pratiquants, essayent de dire quand ils disent que le monde est une illusion. C'est qu'une apparence, Maya. Et donc tout ça pour dire que quand tu te demandes sur quel domaine est-ce que j'ai envie de me développer, tu vas avoir instinctivement certains désirs qui vont se manifester. Tu te dis, bah, par exemple, vas-y, j'ai envie d'avoir la place de mon boss, tout simplement parce que mon boss, il fait plus de thunes, il a une meilleure voiture que moi, et en fait, j'ai envie d'avoir la place de mon boss. Mais en fait, vouloir la place de ton boss, ça t'empêche, ça t'aveugle, en fait, aux autres domaines dans lesquels tu pourrais avoir envie de te développer. Tes désirs t'empêchent de voir l'ensemble de la vie. Et à partir de là, une des choses, du coup, la solution quelque part qui est donnée, l'exercice que recommande de faire le docteur Peterson, c'est juste de te poser et d'arrêter d'essayer de viser un truc spécifique. Genre, essaye pas de te dire, vas-y, moi ce que je veux, c'est ça, et si je l'ai pas, je suis triste, si je l'ai, je suis content. D'ailleurs, c'est une stratégie perdante, c'est un truc dont je parlais dans la dernière vidéo que j'avais postée sur YouTube, dans laquelle je vous parlais du processus et de l'objectif. Je vous disais que quand j'avais commencé à faire du street workout, je me suis focalisé sur le processus, autrement dit sur les différentes actions qui allaient me permettre d'accomplir mon objectif. Mon objectif, il était clair. Je voulais un meilleur physique, je voulais avoir un meilleur corps, je voulais être plus puissant, je voulais être meilleur physiquement. Mais je ne me suis pas concentré tous les jours sur mon reflet dans le miroir. Je me suis concentré sur les actions qui allaient me permettre de me rapprocher de cet objectif. À partir de là, si à la fin de la journée, j'avais entrepris les actions qui me rapprocheraient de l'objectif, c'est-à-dire manger correctement, m'entraîner correctement, me reposer suffisamment, je pouvais être fier de moi. Parce que si tu te focalises sur l'objectif, tous les jours quand tu te lèves, tu vois ton objectif, c'est « Ok, mon but c'est d'être balèze. » Tu te regardes devant le miroir, t'es pas balèze, t'es frustré. Tous les jours, t'es frustré parce que t'as pas atteint ton objectif. Et ton objectif, au fil que tu progresses dans cette direction, ben, il évolue. Aujourd'hui, t'as pas les mêmes objectifs que ceux que t'avais quand t'avais 12 ans. Tout simplement parce qu'avec le temps, tes objectifs changent. Et donc, t'as deux cas de figure qui sont possibles. Cas de figure numéro 1, au moment où tu te rapproches de ton objectif, au bout d'un moment, tu réalises qu'en fait, cet objectif, il est plus si important que ça pour toi. Quand t'avais 12 ans, ton but, c'était d'être le meilleur. J'ai pris l'exemple des cartes Pokémon, je peux reprendre le même exemple. Hein. Ton but, c'était d'être le meilleur mec dans les cartes Pokémon. T'arrives à 12 ans, tu cravaches, tu mets tes thunes dans les cartes Pokémon, ton but c'est d'être le meilleur, tu travailles et tout, tu t'es frustré parce que t'es pas le meilleur, il y a toujours des mecs qui sont meilleurs que toi, et un jour, tu réalises qu'en fait c'est pas si important que ça d'être le meilleur joueur de cartes Pokémon. Et donc tu te dis, putain, et ça c'est un truc qui m'est arrivé souvent dans ma vie, tu te dis, bah putain, en fait c'est de la merde, genre j'ai perdu tout ce temps dans ma vie pour essayer de devenir le meilleur joueur de cartes Pokémon, et en réalité... c'est pas intéressant pour moi. En fait, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de me développer physiquement, c'est de plaire aux filles, c'est de m'investir dans mes études histoire de construire mon avenir. Et donc, tu dis, bah vas-y, j'abandonne les cartes Pokémon, je passe à l'objectif suivant. Tu passes à l'objectif suivant, tu essaies de te construire physiquement, tu te construis, 2 années passent, 3 années passent, et en fait, tu te rends compte au bout d'un moment que, en fait, ça m'intéresse plus tant que ça, tu vois, de développer physiquement. Quand tu regardes les vieux, ils s'en foutent, tu vois, d'être fort physiquement. Les vieux, ils se disent, bah peut-être ce qui est important pour eux, c'est le jardinage, avoir des bonnes connexions avec les membres de leur famille, passer du temps avec leurs petits-enfants, et ainsi de suite. Tes objectifs, ils vont évoluer avec le temps. Et donc si tu fais dépendre ton bonheur de l'atteinte d'un objectif donné, au moment où cet objectif il disparaît parce que tu lui accordes plus d'importance, eh ben, tu te sens mal. Ça c'est cas de figure numéro 1. Tu te sens frustré parce que tu ne l'as pas, et quand il change, tu te dis merde, en fait il faut que j'atteigne quelque chose d'autre, et donc tu vis constamment dans un état de frustration. Moi c'est pour ça que je me suis fait un tatouage dont je ne vous ai d'ailleurs pas encore parlé, en fait je suis censé faire une série sur mes tatouages, je vous parlerai de ces tatouages, mais j'ai un tatouage sur le pied, c'est un astronaute musulman en train de prier, parce qu'au cours de ma vie, j'ai à plusieurs reprises cherché à atteindre différents objectifs. Au début c'était les cartes Magic, c'était pas les cartes Pokémon, ensuite c'était être super bon dans Call of, ensuite c'était le sport, ensuite c'était les études, et à chaque fois j'en suis arrivé à un stade où je me disais ça m'intéresse plus tant que ça, en fait. J'ai envie d'atteindre quelque chose d'autre. Et donc, je me suis dit, et à chaque fois, je passais par une petite phase de crise existentielle, tu vois. Je me disais, mec, qu'est-ce que je fais maintenant ? C'est quoi mon goal ? Et un jour, j'en ai eu marre. Un jour, j'en ai eu plein le cul. Je me suis dit, pourquoi est-ce que je me casserais le cul à sacrifier pour essayer d'atteindre quoi que ce soit ? Tous ces sacrifices que j'ai faits pour devenir le meilleur joueur de cartes Magic, je les ai fait pour rien, vu qu'étant donné que aujourd'hui ça m'intéresse plus tant que ça que devenir le meilleur joueur de cartes Magic. Et donc je me disais, mais merde, en fait j'ai passé tout du temps, enfin j'ai investi tout ce temps pour rien du tout. Donc j'ai essayé de chercher l'objectif ultime. Je me suis dit, en fait c'est quoi le but ultime de la vie ? Tu vois, autant plutôt que d'atteindre un objectif et ensuite d'être déçu ou de me dire en fait c'est autre chose qui m'intéresse, de passer à un autre objectif, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, j'ai directement trouvé le OG objectif, le dernier objectif, et je vais me démerder pour l'atteindre, et une fois que je l'aurai atteint, je serai bien. Et donc là j'ai commencé à parler un peu avec des vieux autour de moi. J'habitais à l'époque à Zurich, et il y avait le concierge de la résidence étudiante dans laquelle j'habitais, c'était un énorme alcoolique qui invitait toujours ses potes énormes alcooliques, et je me posais avec eux et je discutais avec eux, tu vois, j'essayais de comprendre en fait ce que c'était leur goal dans la vie. Et j'ai réalisé, en fait, le goal dans la vie, tu vois, c'est pas d'atteindre un objectif. T'as pas un objectif ultime. Et le goal dans la vie non plus, c'est pas de ne pas atteindre d'objectif. T'as besoin d'un objectif pour te lever le matin. Quand tu te lèves le matin, si t'as envie d'agir, t'es obligé de spécifier un truc qui est plus intéressant que les autres. Si tu décides pas que sortir de ton lit pour aller pisser, ça va te permettre d'être dans un état qui est meilleur que l'état dans lequel tu te sens actuellement dans ton lit, tu te lèves pas pour aller pisser. Si tu ne spécifies pas une chose qui est plus importante que les autres, tu fais rien. Donc constamment, tu détermines, ça c'est important, une fois que je l'aurai fait, je me sentirai mieux, donc je le fais, et donc tu le fais. Constamment, tu détermines des objectifs. Et t'as besoin de ces objectifs pour agir. Okay ? Donc l'objectif, t'en as besoin. Autrement, tu fais rien, autrement, tu te sens comme une merde. Et alors, la raison pour laquelle je te dis que je sens comme une merde, c'est parce que je l'ai vécu, tu vois. Moi, quand j'ai fait ce tatouage sur la cheville, un astronaute musulman en train de prier, ce que ça voulait dire, c'est qu'en réalité, c'est quoi ? Fuck les objectifs, fuck les systèmes de valeurs, je me casserai plus le cul à poursuivre quoi que ce soit, étant donné que je sais pertinemment que soit je vais me désintéresser du truc en cours de route, ou alors qu'une fois que j'aurai atteint, je vais me sentir bien, peut-être pendant 2 semaines, vas-y, j'ai obtenu mon diplôme, c'est le cas classique, hein. T'obtiens ton diplôme, tu cravaches comme un porc pendant 5 années pour obtenir un master, t'obtiens ton master, tu te prends pour le roi du monde pendant 2 semaines, et ensuite tu te rends compte, bah en fait maintenant il faut que j'aille trouver un taf au McDo, parce qu'il faut que je me fasse embaucher par une boîte. Combien de mecs essayent de se lancer dans une carrière professionnelle, ils sont là en mode, le jour où j'aurai mon master, j'aurai atteint le méga objectif de la vie, ils atteignent le master, ils passent 3 week-ends maximum si tu veux, à être heureux, à sentir bien vis-à-vis d'eux-mêmes, et ensuite ils sont là, bah, maintenant c'est quoi l'étape suivante ? Ils passent souvent par une petite phase de dépression, parce qu'ils comprennent pas que tu ne peux pas laisser ton bonheur dépendre de l'atteinte de l'objectif. Donc, t'as besoin d'un objectif, mais tu peux pas laisser ton bonheur dépendre de l'atteinte de l'objectif. Et donc le but de la vie, ce que j'ai remarqué pendant ces discussions avec les vieux, c'est que tu peux pas rien faire. Tu es obligé de continuer à faire des trucs. Mais en fait, le plaisir, tu dois le prendre dans le chemin. C'est pas la destination qui compte. Tu as besoin de la destination. Si tu pas de destination, tu n'as pas de direction. Tu peux pas déterminer une direction sans destination. Je vois des mecs sur YouTube expliquer que concentrez-vous sur le chemin et pas sur les objectifs. Il faut arrêter d'avoir des objectifs, autrement tu sens. Frère, comment tu veux déterminer une direction à prendre si tu n'as pas de destination ? Dans quelle direction est-ce que tu vas ? Tu vas derrière, tu vas devant. Qu'est-ce que tu vas poursuivre ? Tu es obligé de déterminer une chose comme ayant de la valeur. Par contre, tu dois comprendre que cette chose-là, elle est importante pour toi maintenant, ok, mais elle ne le sera pas toujours. Et ce qui compte en réalité, c'est de te développer. Et donc maintenant, pour en revenir au point que j'étais en train de faire juste avant, tu as plein de choses qui peuvent être importantes pour toi et pas nécessairement obtenir le job de ton patron. En fait, pose-toi en arrière, du coup, c'est ce que je disais, putain, je suis parti sur une tangente, je t'ai fait une digression de l'espace. En réalité, tu te poses et tu te demandes, mec, comment est-ce que je pourrais faire en sorte que ma vie soit un petit peu meilleure ? Pourquoi ? Parce qu'en réalité, tes objectifs, t'en as plein. Ok ? Il y a plein de choses que tu pourrais décider de poursuivre, plein de choses que tu pourrais décider d'atteindre. Je pourrais décider d'avoir une meilleure situation économique, un meilleur physique, de mieux réussir au niveau de mes études, de mieux réussir professionnellement. Ce que tu veux, généralement, c'est t'améliorer. T'as envie de te lever le matin et de te dire aujourd'hui, quand je vais me coucher, je vais être un petit peu meilleur que quand je me suis levé le matin. C'est ce qui fait que quand tu te couches le soir, t'es fier de toi. T'as l'impression d'avoir passé une journée, t'as pas l'impression, t'as passé une journée qui a été, c'est mieux que cette journée, elle existait, plutôt que cette journée n'ait pas existé. Quand tu te couches le soir et que tu te dis aujourd'hui j'ai rien fait, j'ai fait de la merde, t'es pas fier de toi. C'est pas comme ça que t'as envie de te coucher le soir. T'as envie de te coucher le soir en ayant le sentiment d'avoir avancé dans une bonne direction. Mais pas dans une direction, dans un domaine spécifique. Regarde autour de toi, trouve des choses, il y a des choses qui vont se manifester comme ayant besoin d'être améliorées. Peut-être que tu vas voir que ton bureau c'est le bordel, peut-être que tu vas voir que tu devrais faire la vaisselle, peut-être que tu vas voir que ton corps il te plaît pas, les choses qui vont apparaître à tes yeux, tu vas te demander, ok, ça c'est des choses que je pourrais améliorer. Ensuite tu te demandes, est-ce que j'ai envie, est-ce que je suis prêt à faire le sacrifice nécessaire pour améliorer cette chose ? Et des fois la réponse ça va être non. Des fois tu vas regarder ton bureau, tu vas avoir une pile de papier et tu vas dire, ok, c'est vrai que je pourrais m'occuper de cette pile de papier sur mon bureau. Il y a des factures à payer, si je les paye pas je vais me prendre des frais de rappel. Est-ce que j'ai le courage, est-ce que j'ai les couilles de m'y attaquer ? Et des fois la réponse c'est non, tu vois. T'as peur de y aller parce que tu te dis, ça te paraît être un défi trop grand pour toi. Mec, vise plus petit. C'est genre l'idée, t'as un objectif hyper grand, ok, c'est important d'avoir un gros objectif, mais tu le décomposes en des micro-objectifs. Ton gros objectif, c'est pas en réalité d'avoir un meilleur corps, ton gros objectif, c'est pas d'avoir une meilleure situation économique ou autre, ton gros objectif, c'est de devenir meilleur. De là, comment est-ce que je peux devenir meilleur ? Qu'est-ce que je peux faire maintenant qui rendrait ma vie un petit peu plus stylée ? Et c'est la question que tu dois te poser. En fait, on a le problème, si tu veux, de l'être humain, c'est qu'on est constamment dans un état, et parce qu'on est capable de voir le futur, on peut voir notre potentiel, on peut voir comment est-ce que le monde, comment est-ce que notre existence, elle pourrait être un petit peu meilleure que ce qu'elle est maintenant. Et vu qu'on compare constamment notre situation actuelle avec la situation potentielle dans laquelle on pourrait se trouver, on est constamment, en fait, il y a une dissociation entre ces deux situations, tu vois. Il y a ce que t'es maintenant, il y a ce que tu pourrais être, tu vois l'écart entre les deux, et tu dis, merde, en fait, je pourrais être mieux que ce que je suis, et du coup, tu te sens mal. Solution ? Rapproche-toi de ton objectif, rapproche-toi de ton goal, deviens une meilleure personne. Compare-toi à qui tu étais hier et non pas à qui quelqu'un d'autre est aujourd'hui. Je pense que ça fait un peu un bon débrief de tout ça. Je vais regarder si j'ai pas laissé un peu des notes histoire de pouvoir développer sur quelques points. Intéressant. Je te parlais de l'expérience du gorille invisible. Quand tu accordes de la valeur à quelque chose, tu vas percevoir dans le monde les choses qui vont te permettre de te rapprocher de cette chose à laquelle tu accordes de la valeur. C'est-à-dire que si tu décides, en fait, tu vois ce à quoi tu accordes de l'importance. Très simple. Et ça, c'est important que tu t'en souviennes. Ce que tu vas voir autour de toi, c'est les choses auxquelles tu accordes de l'importance. Tes croyances, tes perceptions, tes valeurs, tes croyances profondes, elles vont faire en sorte que tu vas voir le monde d'une manière et non pas d'une autre. Imagine deux personnes. Tu as une personne qui se dit « Les êtres humains, c'est des fils de pute. Ils sont égoïstes, les gens pensent qu'à leur gueule, etc. etc. » Un autre mec se dit « Les gens autour de moi, ils sont cool. Ok, c'est des gens qui sont prêts à partager, ainsi de suite. » Deux croyances différentes, ok, deux personnes avec deux croyances différentes. Tu drops ces deux personnes dans une soirée. La personne qui pense que les gens autour de lui sont des fils de pute, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va percevoir chez les autres ce qu'il s'attend à voir chez les autres. La personne qui pense que les gens sont bien, bah en fait, quand il va voir quelqu'un se comporter de façon égoïste, j'en sais rien, mec, discute avec quelqu'un en soirée, le mec, il dit hey, « je vais me chercher un verre, attends-moi deux secondes », il fait « ok, pas de problème », il va chercher un verre. L'autre personne, si tu veux, la personne qui pense que les gens sont égoïstes, même situation, discute avec quelqu'un, la personne lui dit « attends deux secondes, je vais me chercher un verre », il va directement se dire « ah ouais, putain, il va chercher un verre et il m'en propose pas un à moi ». Et boum, bam, ça renforce la croyance, biais de confirmation. C'est-à-dire que ce que tu t'attends à voir chez les autres, c'est au final ce que tu vas voir chez les autres. Et en réalité, c'est même ce que tu vas faire se manifester chez les autres. Pourquoi? Si tu t'attends à voir de la méchanceté chez les autres, comment est-ce que tu te comportes avec les autres? Tu vas te montrer distant, tu vas te montrer méfiant. T'arrives à une soirée, t'approches un mec, tu lui fais hey, « salut mon gars ». Imagine, autre scénario, toi t'arrives dans une soirée, t'approches un mec, tu lui fais hey, « salut mon gars, t'as été invité à la soirée de Tommy, comment ça se passe mec ?» Et le gars il te fait « ouais, Tommy m'a invité ». Comment tu te comportes avec un mec comme ça? Ben, tu dis « ok, ce mec, soit il me snob, soit il a pas envie de sociabiliser, en fait, vas-y, je laisse de côté ». Il fait « ok, bon bah, ciao mec », et tu te barres. Et si t'es un peu rancunier de base, si tu veux, tu vas même potentiellement, à la prochaine occasion, en fait, chier sur ce mec. Imagine ce mec, ensuite, il fait de la merde. Toi, tu t'es fait un nouveau groupe de potes pendant la soirée, t'allais parler avec d'autres gens, et ce mec fait de la merde. Et ben toi, tu vas dire à ton groupe de potes, si t'es rancunier, tu vas dire « Ouais, ce mec, je lui ai parlé, il est un peu bizarre et tout. » Et tu vas en fait détruire la réputation du gars. Ce mec-là, si ça se trouve, c'était juste un mec blessé. C'était juste un mec qui a été blessé dans son enfance, qui s'attendait à voir de la méchanceté dans toi. C'est pour ça que quand t'es venu lui parler, le mec directement a marqué une distance. Ce que toi t'as pris pour de l'arrogance, c'était en réalité de la peur. C'était parce qu'il s'attendait à avoir de la méchanceté chez toi. Et donc parce qu'il s'attendait à avoir de la méchanceté, eh ben il a fait exister cette méchanceté qui arrive chez toi. Et ça, c'est de nouveau, c'est la leçon du livre de Dostoïevski, n'importe quoi, d'Alexandre Solzhenitsyn. Je vous ai parlé de ce livre qui L'archipel du goulag, prix Nobel de littérature 1970. C'est un soldat russe qui se fait envoyer sur le front, qui se fait décorer, parce qu'il a accompli des actes de bravoure pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc il était dans l'armée rouge avec Staline du coup. Et un jour il se fait envoyer dans un goulag parce qu'il écrit une lettre à un ami d'enfance, un mec qui avait fait l'école d'officier avec lui en réalité, dans laquelle il remet en question, il critique une décision de Staline. Il se fait envoyer dans le goulag et quand il arrive là-bas, en fait, il réalise que même dans la pire des situations, t'as la possibilité de te comporter comme un énorme fils de pute, et même dans la meilleure ou alors de te comporter comme une bonne personne. Donc il est dans le goulag, situation horrible, mais il y a des gens qui trouvent moyen de rendre les choses encore pires. Et donc la leçon qui tire du truc, c'est un énorme ouvrage. Je vous recommande ce livre à 200%. Je fais une vidéo sur ma chaîne YouTube principale, du coup, Elio Avila Munoz, que je vous recommande vivement d'aller voir. La leçon, la punchline du livre, c'est « J'ai découvert que la ligne qui sépare le bien du mal ne traverse ni les états, ni les classes, ni les partis politiques, ni les genres, ni les religions. Elle traverse le cœur de chaque homme. Et en chaque homme, cette ligne aussi. Dans un cœur qui est rempli de mal, il reste toujours un petit bastion du bien. Et même dans un cœur rempli par le bien, il reste toujours un petit coin dont le mal n'a pas été déraciné. C'est le yin et le yang. Il y a toujours un serpent dans le jardin. Il y a toujours du mal, même dans le cœur le plus bon. Et donc si tu te comportes, si tu penses, si tu pars de l'idée que les gens sont mauvais, tu vas voir ça chez les gens et tu vas le faire exister chez les gens. C'est très con, tu vois, ça peut paraître un peu métaphysique et tout, c'est pas rationnel ou autre, mais c'est comme ça que ça se passe. Tu ne vois pas le monde de façon objective. Tu perçois ce à quoi t'accordes de l'importance. Et donc si tu décides que ce qui a de l'importance en réalité dans ta vie, c'est pas d'avoir tel physique, c'est pas d'avoir X, Y, Z, mais c'est en réalité de devenir une meilleure personne, de devenir meilleur, de te développer en tant qu'humain, t'observes autour de toi et donc tu décides que chaque jour, t'as envie de te coucher en étant fier de toi et donc en étant devenu meilleur que ce que t'étais la veille. Voilà, donc compare-toi à qui tu étais hier et non pas à qui quelqu'un d'autre est aujourd'hui. Je vais terminer du coup cette règle numéro 4 par te lire le petit passage de fin sur lequel on va pouvoir méditer, mais qui est un petit passage intéressant qui résume bien le tout. Donc c'est en anglais, tu vas pouvoir travailler ton anglais. C'est parti. Realization is dawning. Instead of playing the tyrant, therefore you're paying attention. Donc au lieu de jouer le tyran, si tu veux, maintenant il faut que tu sois attentif. You're telling the truth instead of manipulating the world. Donc t'essayes pas en fait d'être un tyran avec toi-même et de dire ok, il faut que tu sois meilleur financièrement, il faut que tu aies un meilleur physique, il faut que non. Tu regardes juste autour de toi, t'es attentif et donc tu vas pas essayer de manipuler le monde pour essayer de le faire s'aligner sur tes désirs en fait. C'est pas, ça doit pas être ça ton but. Si tu essaies de faire ça, t'es foutu. You're negotiating instead of playing the martyr or the tyrant. Donc t'es en train de négocier au lieu de jouer le martyr ou le tyran. You no longer have to be envious. T'as plus besoin d'être envieux, donc d'être jaloux des gens autour de toi. Because you no longer know that someone else truly has better. Parce que tu sais qu'il n'y a personne en réalité autour de toi qui est dans une meilleure situation que toi. Il n'y a aucune vie humaine qui est préférable à la tienne. C'est-à-dire que tu vas voir un mec, à nouveau, c'est ce que je te disais, tu as un mec sur Instagram, tu as l'impression qu'il a une meilleure vie que toi. Mais frère, qu'est-ce t'en sais ? C'est une seule dimension de sa vie à lui que tu peux observer. Et plus tu grandis, plus ta vie devient singulière, plus tu deviens une personne unique et moins c'est pertinent de te comparer à quelqu'un d'autre. Quand t'es jeune, c'est important, tu peux te comparer aux gens autour de toi, tu vois, c'est normal. T'es petit, voilà, ton voisin, vous avez grandi au même, vous avez le même âge, vous avez 7 ans et demi, vous allez au même club de tennis, vous allez à la même école et tout, vous avez plus ou moins, vous êtes comparables l'un à l'autre. Mais genre, le temps passe, lui, il s'inscrit à un club de, putain, un club d'échecs, toi, tu t'inscris à un autre truc, ensuite, lui, il rencontre telle personne, donc toi, t'as commencé à avoir une meuf, lui, il a eu plus de potes, toi, t'as une meuf, lui, il est jaloux de toi parce que t'as une meuf, mais toi, t'es jaloux de lui parce qu'il a plus de potes, ça a aucun sens. Plus le temps passe, moins c'est intéressant de te comparer aux autres. You no longer have to be frustrated because you have learned to aim low and be patient. T'as plus besoin d'être frustré parce que t'as appris à viser bas et à être patient. C'est vrai que, tu vois, mec, ça, c'est un des trucs. C'est pourquoi est-ce que
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
C'est un des trucs, en fait, j'ai pas développé, mais c'est un des thèmes importants du chapitre. C'est pourquoi est-ce qu'il y a des gens, t'as l'impression, autour de toi, qui sont dans une situation tellement meilleure que toi dans certains domaines. Dans ce livre, il parle du principe Matthieu, qui est un principe biblique, mais qui s'applique également à l'économie, qui est, donc, je crois qu'on appelle ça les versets dans la Bible, qui est « à ceux qui ont tout, plus sera donné, et à ceux qui n'ont rien, tout sera pris ». C'est un truc dans le genre. Dans l'idée, c'est « plus tu gagnes, plus tu vas gagner dans le futur ». Plus tu perds, plus tu vas perdre dans le futur. Je l'avais déjà parlé dans la toute première règle dans laquelle j'ai parlé du système sérotoninergique, donc règle 1, tiens-toi droit. C'est deux règles qui sont pas mal liées les unes avec les autres. En tout cas, la première aide à comprendre celle-ci. Mais c'est-à-dire que plus tu es dans une position, plus tu es dans une bonne position dans ta vie, plus tu vas continuer, plus ta vie elle va s'améliorer de façon exponentielle. Parce que mieux tu es, plus les gens ont envie de s'associer à toi, plus on t'offre d'opportunités, ainsi de suite. Plus c'est la merde dans ta vie, moins les gens ils se disent « bah vas-y, j'ai pas envie de faire du business avec lui, regarde, il est constamment en galère ». Donc plus t'es en galère, plus tu vas cracher vers le bas. Mieux t'es, plus tu vas vers le haut. C'est pour ça qu'il faut que tu tires vers le haut, mec. C'est pour ça que tu peux aller dans la description et me laisser ton adresse email pour commencer le Reboot Camp suivant en juin 2023. Prochaine édition du Reboot Camp, juin 2023. Je te recontacterai par email. Donc tu vises bas, c'est l'idée. T'essayes pas de te comparer à quelqu'un d'autre. Tu vises bas, tu commences par des petites choses. Aujourd'hui, ça va être bizarre, tu vois. Tu vas te dire, ouais, mais parce que vraiment, je peux être fier de moi parce que j'ai fait la vaisselle. Tu commences par faire la vaisselle. Et une fois que tu auras fait la vaisselle, tu auras un petit peu grandi, tu te seras découvert un petit peu plus, tu auras un appartement qui sera un petit peu plus différent que celui dans lequel tu étais juste avant, et tu commences à observer autre chose. Maintenant que tu as fait la vaisselle, tu as un peu grandi et tu as une nouvelle vision, tu as une nouvelle perspective. C'est-à-dire que tu n'as pas attendu d'avoir l'objectif ultime, tu as avancé un petit peu pour devenir une meilleure personne et tu es une nouvelle personne. Maintenant, tu es une personne un petit peu améliorée et surtout, tu as une perspective différente. Il n'y a qu'en ayant un meilleur physique que tu peux comprendre ce que ça fait que d'avoir un meilleur physique et que tu peux te dire du coup, est-ce que vraiment c'est intéressant pour moi d'avoir un meilleur physique? Et du coup, tu te dis, bah ouais, en fait, c'est intéressant. Si tu ne le fais pas, si tu n'essaies pas de progresser dans une direction, tu vas constamment avoir la question dans ta tête, est-ce que je ne devrais pas essayer de m'améliorer? Est-ce que je ne devrais pas avoir un meilleur? Qu'est-ce que ça ferait? Comment serait ma vie si j'avais des bêtes d'abdos? Si j'avais des bras et un dos stylé, tu vas constamment te poser cette question. La solution, c'est mec, obtiens-le et comprends qu'une fois que tu l'auras obtenu, tu réaliseras probablement que c'était pas exactement comme tu l'avais imaginé et que du coup, il te faudra un autre objectif et comprends que c'est ok. C'est ça la vie, c'est comme ça que tu grandis. Tu peux pas attendre d'avoir l'objectif ultime avant de te lancer, autrement tu te retrouves à 40 ans avec l'expérience d'un mec de 17 ans. Et c'est pathétique d'être comme ça, ok ? C'est parti. Donc, you no longer have to be frustrated because you have learned to aim low and to be patient. Donc, tu as appris à viser bas et être patient. You're discovering who you are and what you want and what you're willing to do. Tu es en train de découvrir qui tu es, ce que tu veux et ce que tu as envie de faire, ce que tu es prêt à faire. Et c'est ça qui est important, mec. C'est de te découvrir, c'est le goal de la vie, mec. You're finding that the solutions to your particular problems have to be tailored to you personally and precisely. Tu es en train de découvrir que les solutions de tes problèmes spécifiques, donc des problèmes qui sont intrinsèquement liés à toi, de tes propres problèmes, ils sont tailored to you. Ils sont genre, comment on dit, un tailor, c'est un couturier, un mec qui te fait un truc sur mesure. Donc ils sont sur mesure. Donc les solutions de tes problèmes, c'est vraiment que des solutions à toi. Ta vie, elle est unique. Personally and precisely. Vraiment personnellement et précisément. Les solutions de tes problèmes, c'est un truc qui est que là pour toi. Pour ça, tu te compares que à toi. You are less concerned, j'ai l'impression de me répéter un petit peu, mais il faut que ça rentre, mec, compare-toi à toi-même. You're less concerned with the actions of other people because you have plenty to do yourself. Tu es moins concerné, tu es moins inquiet, tu portes moins d'attention aux actions des autres parce que tu sais que tu as carrément une tonne de trucs à faire avec toi-même. Mec, avant de pointer les autres du doigt, avant de trouver la brindille qui existe dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre qui est dans ton œil. C'est toute la même idée, mec. C'est toute la même idée, il y a tout qui est lié, mon pote. Attend to the day, but aim at the highest good. Donc, concentre-toi sur la journée qui t'attend. Donc, concentre-toi sur les petites actions que tu vas pouvoir faire aujourd'hui. Mais vise le plus grand bien. Et le plus grand bien, une fois de plus, c'est de rendre les choses meilleures. Ça, c'est le point commun de tous tes objectifs. En réalité, tu as envie de devenir meilleur. Quel que soit le domaine, tu veux te retrouver dans une meilleure situation. C'est le but, c'est ce que tu fais. À chaque fois, avant d'agir, tu dis, ben, je pense que si je fais ça, je serai dans une un peu plus meilleure situation que maintenant. Autrement, tu le ferais pas. Donc, le point commun de toutes les choses que tu fais, c'est de devenir meilleur. Donc, c'est ce que tu fais, mec. Tu regardes autour de toi, qu'est-ce que je pourrais faire pour devenir un petit peu meilleur. Une fois que tu trouves un truc que tu es prêt à faire, tu le fais. Now, your trajectory is heavenward. Maintenant, ta trajectoire est dirigée vers le paradis. Et c'est le but, tu vois, genre des concepts comme le paradis et l'enfer. C'est pas genre tu meurs et ensuite tu vas au paradis, ou alors tu meurs et ensuite tu vas en enfer. Même si tu crois au fait que ton âme est immortelle, c'est une chose à laquelle je crois, tu vois, je pense que le jour où mon corps meurt, ça s'arrête pas, tu vois. Moi, je suis pas mon corps, donc si mon corps, il arrête de bouger, quelque part, le truc qui m'anime, mon âme, je sais pas où est-ce que vous la situez dans votre corps. Moi, des fois, j'aime bien imaginer que le vrai moi, quelque part, le moi profond, ben, il se trouve quelque part peut-être en dehors de ma tête, il est capable d'observer ma façon de penser, il est capable d'observer ma façon d'agir, il me donne un feedback, c'est la voix intérieure que j'ai. Quelque part, je le vois un peu au sommet de ma tête. Bah, ce truc-là, d'après moi, il ne va jamais mourir. Donc, d'après moi, même quand tu meurs, tu restes quelque part un peu dans le même état psychologique que celui dans lequel tu étais dans ta vie. C'est un peu la croyance que j'ai. Mais à nouveau, on s'en fout quelque part de ce truc-là. Ce qui est important, c'est qu'au cours de ta vie, le paradis et l'enfer, tu vas le vivre. C'est des places qui existent, c'est des lieux, des états psychologiques, des états émotionnels qui existent réellement. Si tu fais de la merde dans ta vie, si tu vises bas, l'enfer, tu vas le vivre. L'enfer, tu vas le vivre là maintenant sur Terre. L'enfer, c'est de te lever tous les matins, d'être dégoûté de la vie, de ne pas savoir dans quelle direction tu vas. Tu te couches le soir et tu t'en veux parce que tu as fumé des clopes, parce que tu as fumé des pets, parce que tu as bu de l'alcool, parce que tu as procrastiné tes projets. Tu te sens comme une merde. Le lendemain matin, tu te lèves et tu te dis putain, j'ai tous ces trucs à faire, fais chier, je ne les fais toujours pas. Ça, c'est l'enfer, mon pote. Alors, ça, c'est un petit degré d'enfer. Ensuite, tu as toujours la possibilité de creuser encore plus profond. Si la situation, c'est de la merde, comprends que tu peux toujours l'empirer. Qu'après avoir envoyé ton poing dans une fenêtre, que tu comprends que, tu vois, alors, t'es énervé, ça c'est un truc qui est arrivé à mon cousin, t'es énervé, tu mets une patate dans une fenêtre, tu pètes le poing et tu t'ouvres complètement les veines, et là tu comprends que mec, en fait, je pensais que les choses c'était de la merde, mais en réalité, c'était toujours possible de l'empirer. Une situation, c'est toujours possible de l'empirer. Bah t'as beau être, tu vois, ton état de merde en mode fais chier, je procrastine, je fais de la merde dans ma vie, tu peux toujours empirer le truc. Parce que du coup, tu vas avoir la haine, tu vas être vénère, tu vas commencer à détruire ta relation avec tes parents, avec tes potes, et ainsi de suite. Comment tu penses que tu te retrouves genre à la rue? Comment tu penses qu'il y a des mecs qui se retrouvent à la rue? Tu te retrouves pas à la rue comme ça, mec. Moi, je sais de quoi je parle, tu vois. Je parle avec une quantité de personnes de tous les horizons différents. Ça, c'est un truc que ma meuf, elle me dit toujours. Elle me dit, t'as pas de potes normaux. Tes potes, c'est soit des mecs qui font des millions par mois, soit des mecs qui soit des clochards, en fait, soit des mafieux. Genre, je suis devenu pote. Bon, c'était pas volontaire, les mafieux. Mais en gros, je suis devenu pote sans le savoir, en fait, avec un grossiste qui vend de la coke. J'ai un pote qui s'est fait amputer la jambe parce qu'il a eu la gangrène. J'ai vu un peu tout le spectre. Et crois-moi, tu te retrouves pas dans la position d'être sans abri parce que t'es une victime. Bien sûr, t'as des circonstances de la vie qui vont t'éclater au sol, tu vois. Mais la manière dont tu vas réagir vis-à-vis de ces circonstances, ça va faire la différence. Crois-moi que ces mecs qui sont à la rue, il y a plein de gens qui veulent les aider. Il y a plein de gens qui ils rencontrent chaque année 3, 4, 5 fois des bonnes âmes qui viennent et qui ont envie de les aider à se tirer de là. J'en ai rencontré parce que du coup, en traînant avec eux, je vois, tu vois, la meuf de 50 ans du coin qui habite dans le quartier, qui tous les jours leur amène de la bouffe, qui tous les jours est là, elle est prête à essayer de les aider. Mais mec, au bout d'un moment, si tu te retrouves dans une situation aussi basse, c'est pas que t'es juste une victime de la situation, c'est que t'as continué à viser vers le bas. Et à nouveau, tu vois, bien sûr, comme je l'ai dit, plus t'es bas, bah, plus le bas t'aspire quelque part. Donc plus t'es dans la merde, plus c'est quelque part tentant de continuer à saisir le plaisir dans l'instant, plus c'est difficile de sacrifier le présent pour investir dans ton futur, et du coup, plus tu dégringoles vers le bas. Bah, attends pas d'arriver là en bas, mon pote. Ok ? Tu peux... Mais frère, tous les mecs que tu vois dans la vie, tu vois, genre tous les gens, toutes les situations que aujourd'hui des êtres humains sont en train de vivre, c'est des situations que toi, tu pourrais vivre. Ça, c'est un truc que tu dois comprendre. Quand tu vois les nazis, tu vois, genre dans le camp Auschwitz, il y a un petit écriteau, tu vois, qui dit genre « never forget », tu vois, « n'oublions jamais ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale ». Parce qu'il faut ne pas oublier, c'est pas que les Allemands c'était des nazis et que du coup les Allemands c'était des méchants. Ce dont tu dois te souvenir, c'est que si les nazis c'était des humains et que toi t'es un humain, tout ce que les nazis ont pu faire, toi t'es capable de le faire. T'es capable de faire absolument n'importe quoi si t'es placé dans les bonnes circonstances. Alors peut-être pas aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui tu vas pas pouvoir te dire « bah vas-y en fait, vas-y on extermine les juifs ou on extermine telle ou telle population ». Ça va lentement mec. Ça va lentement, peu à peu, tu te retrouves dans une situation dans ta vie où tu laisses la rancœur monter dans ton cœur, tu commences à te poser dans une position de victime en mode hey, « mais c'est à cause d'eux, l'inflation, la mauvaise situation économique du pays, c'est à cause d'eux parce que notre devise, le Deutschmark, il vaut plus rien ». Tu pointes les autres du doigt, tu te dis « c'est eux les méchants, moi je suis une victime », et ensuite c'est ce qui justifie le fait que tu peux les exterminer. Le génocide au Rwanda, t'as la moitié de la population qui se dit « en fait on va juste exterminer l'autre moitié de la population pourquoi ». Pourquoi? Parce qu'on est des victimes. Je crois qu'il y a eu genre plus d'un million en une ou deux semaines à la machette. Quand les Belges y sont arrivés, ils ont classé les habitants, si tu veux, en fonction des ethnies. Il y avait les Hutus, les Tutsis et les Twa. Et ils ont dit, genre, les Tutsis, en fait, ils sont un peu plus grands, donc on va les mettre un peu dans des positions administratives supérieures. Avec le temps, la rancœur dans le cœur des Hutus, bah, elle se développe. Si on a des victimes, bah, vas-y, on va les buter. En fait. Et ça, ce qu'ils ont fait, les Hutus, quand ils ont massacré des millions de Tutsis à la machette, c'est un truc que toi, tu pourrais faire. Si je te place dans les bonnes circonstances, si tu as le même parcours de vie qu'un Hutu en 1993, tu te retrouves à faire ce que les Hutus ont fait en 1993. Pareil pendant le génocide ukrainien à l'Holodomor. C'est en mode, ok, on a ces mecs-là, les Koulaks, on a ces paysans qui sont riches, c'est à cause d'eux qu'on est dans une mauvaise situation. Bah viens, on va les exterminer, on les met dans les trains, on les envoie en Sibérie, on les laisse mourir de froid. C'est toujours le même discours. C'est, je suis une victime et donc j'ai le droit de te faire du mal. Bah ça, t'en es capable, mec. Et du coup, pourquoi je dis ça, mec? Pourquoi est-ce que je partais sur tout ce qu'un être humain a fait, t'en es capable? Du coup, tout ce qu'un être humain vit, t'es capable de le vivre aussi, mec. Y a rien qui te sépare, qui te différencie d'un sans-abri que tu vas voir dans la rue. Mais de la même manière que ça, il n'y a rien qui te différencie d'un mec qui arrive au top. C'est pour ça que, mec, tu es au contrôle de ta vie. Il y a évidemment des éléments sur lesquels tu n'as pas de contrôle, mais les éléments sur lesquels tu as du contrôle, ils existent, et là-dessus, tu dois prendre contrôle. Donc regarde autour de toi et vise vers le haut. Parce que si tu vises vers le bas, tu peux rapidement, plus rapidement que ce que tu penses, te retrouver dans une situation horrible. Et c'est toujours possible d'aller plus profond. Bref, je continue. Donc, now, your trajectory is heavenward. Donc, maintenant, ta trajectoire, du coup, va en direction du paradis. Et c'est ce que tu devrais faire. Tu devrais faire en sorte que ta vie soit un paradis. Et c'est un paradis, en réalité, pas quand ta vie, elle est géniale. Mec, j'ai eu des moments dans ma vie où je me sentais en feu, alors que j'avais R. Quand j'ai commencé mes études de droit, aucune liberté, pas de thunes. Je devais me lever tous les matins à 5 heures pour aller bosser mes cours. Toute la journée, je passais à bosser mes cours. J'allais au sport, je rentrais chez... Je pouvais rien faire, j'avais pas de meuf, c'était zéro, tu vois. Mais je me sentais bien de ouf. Frère, je me sentais engagé comme pas permis. Pourquoi ? Parce que j'étais en train de viser vers le haut. Parce que les soirs, quand je me couchais, je sentais que ma vie, j'étais sur la bonne trajectoire. Ce qui compte, c'est la trajectoire sur laquelle tu te trouves, pas ta position donnée. Comment est-ce que je l'ai compris ça ? Je l'ai compris par la suite et c'est de là qu'est venue l'idée du reboot camp. Quand je te dis que le but, c'est de placer un mec sur une trajectoire ascendante, le but du programme, c'est parce qu'en réalité, tu peux te sentir bien indépendamment de la position dans laquelle tu te trouves. Ton état psychologique, il ne dépend pas de ta position. Tu peux être un millionnaire et être complètement déprimé. Pourquoi ? Parce que tous les jours, bah, tu remarques que ta vie, elle stagne, tu n'as pas l'impression d'aller vers le haut et du coup, tu commences à partir sur de l'alcool, des drogues, je sais pas quoi, et tu commences à te sentir comme une merde. Et quand chaque jour, tu sais que tu es en train de détruire ta vie, tu te sens mal. Et moi, c'est ce que j'ai vécu quand j'étais à Barcelone. Je me suis blessé à la nuque, j'ai dû arrêter de faire du sport. Chaque jour, je voyais que j'étais un peu plus mauvais, je prenais un petit peu de poids, je perdais un petit peu de muscle. J'ai commencé à sortir parce que je me suis dit, de toute façon, je dois attendre de récupérer au niveau de ma nuque pour pouvoir reprendre le sport. Je commençais à sortir, j'ai commencé à avoir j'avais plein de meufs, tu vois. J'habitais dans un bel appart, je gagnais bien ma vie, je voyais plein de meufs. Mais j'ai commencé à déprimer. Je me levais le matin, sentiment de vide, je me sentais mal. Ma position, elle faisait rêver, mec. Frère, je vais pas vous montrer, j'ai une meuf, je vais pas vous montrer les meufs que j'avais, mais j'avais plusieurs copines. Alors, c'était pas mes copines officielles, il y avait toujours une meuf que je voyais avec laquelle je couchais sans capote, les autres, elles étaient protégées. J'étais honnête avec toutes ces meufs, je leur disais, écoutez, on peut coucher ensemble, vous n'êtes pas mes meufs, je vois d'autres meufs aussi, si t'es ok, on peut avancer avec ce deal. Il y a des meufs qui disaient non, il y a des meufs qui disaient oui à un moment, après disaient ah, ça me fait souffrir, du coup je dois arrêter. Moi, au final, je me suis fait un espèce de carnet d'adresses et je vivais une vie, frère, sur le papier, ça aurait fait baver n'importe quel mec de 20 ans. Mais je me sentais comme une merde. Pourquoi ? Parce que je savais que tous les jours, j'étais en train de détruire ma vie et que si je continuais sur cette trajectoire-là, sur une trajectoire qui descendait, j'allais finir justement dans un putain de fossé. Ton but, c'est de te placer sur une trajectoire ascendante. Range les trucs autour de toi. Ce podcast, il s'appelle Range ta chambre. Pourquoi ? Parce que si tu ranges ta chambre, si tu commences à faire des trucs bien, instantanément, tu te mets en marche. Tu commences à viser vers le haut. Et c'est ce que je veux que tu fasses. That makes you hopeful. C'est ce qui te donne de l'espoir. À nouveau, mec, il y avait un reel sur Instagram par rapport à cette phrase. Très intéressant. C'était Combini, je crois, ou une espèce de journal qui a combiné, en fait, une compilation des différents chefs d'État en partant de, sauf erreur, de Jacques Chirac, qui montrait le message de fin d'année de chaque chef d'État français, qui disait en gros, Jacques Chirac, ou ça a peut-être commencé avec François Hollande, j'en sais rien. Bref, Jacques Chirac qui dit « Cette année fut très difficile, nous avons beaucoup souffert, nanana, mais l'année suivante s'annonce vraiment meilleure. » Et ensuite, à la fin de l'année suivante, il disait la même chose. Il disait « Ouais, cette année fut plein de défis, nous avons beaucoup souffert, mais l'année suivante sera meilleure. » En fait, c'était une compilation où tu voyais chaque chef d'État au fil des années, si tu veux, qui disait tout le temps la même chose en fin d'année. Et les gens, ils regardaient ça avec cynisme, ils étaient là « Ouais, ces politiciens, ils disent la merde, et de toute façon, on nous prend pour des cons, c'est toujours la même chose. » Mais frère, le message du truc, et ce que j'ai écrit, mon commentaire, il est parti en top sur... Le mec, il flex. Allez, c'est mon moment de flex, mec. Je mets pas souvent des commentaires sur Instagram, mais là, j'ai commenté ce reel, et c'est parti en top commentaire. Le message, il est simple, tu résumes ça en une phrase, mec. C'est « La vie, c'est dur, ce qui te fait tenir, c'est l'espoir. » Ce qui fait qu'aujourd'hui, même si t'as une vie de merde, bah, tu restes et tu choisis de continuer à vivre, tu te suicides pas. C'est parce que tu gardes espoir dans le fait que peut-être ta vie, elle pourrait s'améliorer dans l'avenir. Et c'est ça, en fait, qui te donne envie de vivre. C'est que tu sais que demain, ce sera potentiellement mieux. Et bien, pour te dire que demain, ça va être mieux, il faut qu'aujourd'hui, tu fasses les sacrifices nécessaires pour que demain, ce soit mieux. C'est ce qui te donne envie de vivre. Et c'est pour ça que ça dit, genre, maintenant, ta trajectoire vise vers le paradis et c'est ce qui te donne espoir. L'espoir fait vivre. Bah voilà, l'espoir fait vivre. Even a man on a sinking ship can be happy when he clambers aboard a lifeboat. Même un mec qui est sur un bateau qui coule peut être heureux quand il monte sur un bateau de sauvetage. Même idée. And who knows where he might to in the future. And who knows where he might to in the future. Je sais pas exactement ce que ça veut dire. Et qui sait où est-ce qu'il pourrait... Ah, where he might go. Excuse-moi, mec, je pars un peu trop vite. Et qui sait où est-ce qu'il pourrait aller à l'avenir. Tu vois, genre, ton bateau, il coule, t'es dans la merde, tu montes sur ton bateau de sauvetage, c'est un petit truc pourri, tu vois. Mais à partir du moment où tu te places sur un truc où tu sais que ta situation, elle pourrait s'améliorer, qui sait, mec ? Ta vie, en l'espace de 2 ans, frère, tu peux la switcher complètement, mec. Si tu commences petit, t'as la possibilité de maintenant, à partir d'aujourd'hui... Frère, t'as quel âge ? Les mecs qui regardent ces vidéos, ils ont entre... Enfin, la plupart d'entre eux, vous êtes majeurs, vous avez entre... Je pense que le type, mon abonné type, il doit avoir autour de 23 ans. En tout cas, sur le Reboot Camp, les mecs que j'ai accompagnés sur ce mois de janvier, ils avaient 23 ans. C'était la moyenne générale. T'as 23 ans, mec, ta vie, en 2 ans, donc t'auras 25 ans, et encore le pic, genre l'endroit où tu peut te développer, parce qu'en tant que mec, tu dois te développer. Tu vois, ça c'est l'idée, c'est tu ne nais pas homme, tu le deviens. Une meuf, elle va avoir énormément de valeur en fonction de sa beauté, de son apparence physique. T'as des meufs, elles ont 18 ans, elles ont rien fait de leur vie, juste parce qu'elles sont méga fraîches, elles vont avoir des célébrités, des basketteurs professionnels, des mecs, des entrepreneurs qui gagnent des millions, qui vont aller les DM sur Insta. En fait, les meufs, sans avoir accompli quoi que ce soit de leur vie, si elles ont une apparence physique qui pète tout, bah elles vont pouvoir connecter avec le top au niveau de la hiérarchie masculine. Et le top de la hiérarchie masculine, bah comme je l'ai dit, c'est pas les mecs les plus beaux gosses. Le top de la hiérarchie masculine, c'est les mecs qui ont accompli un certain nombre de choses. C'est des mecs sur lesquels on peut compter. Donc c'est les meilleurs basketteurs, c'est le meilleur joueur d'échecs, c'est le mec qui est au sommet d'une hiérarchie donnée. Une meuf, elle s'en bat les couilles que tu sois meilleur en échecs, que tu sois meilleur au basket. Elle veut que tu sois meilleur dans ton domaine et que tu sois un mec sur lequel on peut compter. Si maintenant tu commences à faire les choses bien, ta vie dans 5 ans, même dans 2 ans, ça peut être un truc complètement différent, mec. Quand t'es dans un jeu et que t'es en train de perdre dans ce jeu-là, t'as pas envie de continuer, ça te demande énormément d'efforts. Mais quand t'es en train de gagner dans ce jeu-là, t'es jamais fatigué. T'as l'énergie pour te lever, pour faire le truc, tu te lèves le matin, t'es motivé, c'est facile de continuer quand t'es en train de gagner. To journey happily may well be better than to arrive successfully. Le journey, donc c'est le chemin, c'est le contraire de la destination, c'est le trajet, donc l'aventure. Donc avoir une aventure joyeuse, si tu veux, donc parce que tu sens que t'es en train de grimper, ça pourrait même être encore meilleur, si ça se trouve, que d'arriver à la destination. Et en réalité, c'est comme ça que fonctionne ton système dopaminergique. La dopamine que tu sécrètes, elle n'est pas là juste pour te récompenser au moment où tu atteins l'objectif. La dopamine, tu la sécrètes à chaque fois que ton corps, à chaque fois que ton système comprend que tu es en train de te rapprocher de ton objectif. C'est comme ça que ça fonctionne. Une grande partie de ton émotion positive, elle se trouve dans l'espoir que tu portes vis-à-vis du futur. C'est pas seulement quand tu atteins ton goal ultime que boum, tu sécrètes de la dopamine. C'est à chaque petite étape de ton parcours, de ta journey. Ask and you shall receive. Donc demande et tu recevras. Knock and the door will open. Toque à la porte, toque et la porte s'ouvrira. If you ask and if you want and knock and if you want to enter, you may be offered the chance to improve your life. A little, a lot, completely. And with that improvement, some progress will be made in being itself. Voilà, tout est dit. Donc, demande et tu recevras, frappe à la porte et la porte s'ouvrira. Si tu demandes et que tu le veux réellement, que tu frappes et que tu rentres, eh ben, tu te verras offrir une chance d'améliorer ta vie. Un petit peu, beaucoup, complètement. Et avec cette amélioration, du progrès sera fait dans l'existence elle-même. Et c'est ça que tu dois viser, mec. C'est un progrès dans ton existence de façon large. Compare yourself to who you were yesterday, not to who someone else is today. Compare-toi à qui tu étais hier et non pas à qui quelqu'un d'autre est aujourd'hui. C'est tout. On se retrouve la semaine prochaine pour la règle numéro 5 dans laquelle on va parler d'éducation au niveau des enfants. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à la semaine prochaine. Ciao.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.